Salut tout le monde, juste avant de commencer cet épisode, je voulais vous dire deux petites choses. Si vous avez l'habitude de les écouter, vous pouvez juste skip de quelques 30 secondes sur votre application de podcast. Sinon, je voulais vous dire deux choses. La première, c'est que j'ai récemment acheté un distributeur de verres à vin qui sont vraiment maxi stylés. Je dis pas ça parce que c'est moi qui les vends, je dis vraiment ça parce qu'ils sont très beaux. Moi, je les ai et je prends un énorme plaisir à déguster avec. Donc le nom du site, c'est betterwinetaste.com, betterwinetaste.com, tout collé, vous allez dessus. Les verres sont fabriqués en Allemagne, c'est des verres qui sont issus de l'entreprise Eich, donc c'est vraiment très très beau, franchement le buvant est très fin, les pieds sont magnifiques, enfin, je vous les recommande vraiment, c'est un plaisir. Il y a toute une gamme, il y a un verre un peu universel pour le rouge, un verre universel pour le blanc, et ensuite il y a des verres qui dépendent un peu plus des régions, Bordeaux, Bourgogne, etc. Enfin ça vous avez l'habitude, c'est vraiment très cool. Si vous commandez des dessus, vraiment c'est stylé. Et d'ailleurs on fait aussi des prix B2B et des offres B2B, donc si vous êtes vous-même producteur de vin ou si vous travaillez dans le milieu du vin et que vous souhaitez faire des coffrets, que vous souhaitez faire une collection de verres particuliers, que vous souhaitez les faire graver pour votre domaine, votre château, pour recevoir, bah voilà, dites-moi, envoyez-moi un message, c'est une super manière de soutenir ce podcast et en plus bah c'est bénef pour tout le monde. Donc mon adresse mail c'est vsurvin@gmail.com, vsurvin@gmail.com. Vous m'envoyez un message là-dessus et on fera quelque chose ensemble. Et sinon, betterwinetaste.com, et vous avez un code promo POTES qui vous donne droit, je crois, à la livraison gratuite. Donc POTES. Vous avez la livraison gratuite surtout. Donc, c'est plutôt cool pour vous. Deuxième point que je voulais vous dire. Donc ça, c'était le premier. Deuxième point, et après je vous laisse avec ce podcast, c'est que, comme vous le voyez, je m'investis de plus en plus dans le milieu du vin. J'ai vraiment envie de faire quelque chose dans le domaine, et donc du coup, je voudrais lancer une offre qui consiste à faire votre cave à vin. Si vous êtes dans le milieu du vin ou pas, et c'est un peu plus ou pas d'ailleurs, et que vous souhaitez que je fasse un peu votre cave à vin, que je m'occupe un peu de vous, qu'on définisse un peu vos goûts ensemble, que je vous transmette mes trouvailles et que je vous envoie tout ça. L'objectif, c'est de faire un système un peu tout en un qui vous permet d'avoir tout ce que vous voulez, que ce soit patrimonial pour transmettre ou alors pour vous faire plaisir, pour être avec les copains ou un peu des deux. Pareil, vous m'envoyez un mail vsurvin@gmail.com. Il n'y a pas encore de site web, donc désolé. Mais en tout cas, vous m'envoyez un mail et on pourra travailler ensemble avec grand plaisir. Donc voilà, vous savez tout. La première chose, c'est betterwinetaste.com. Avec le code promo POTE, vous avez la livraison gratuite et vous allez voir des verres vraiment de fous furieux. Et si vous êtes pro, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on voit ça ensemble. Et de l'autre côté, je serais ravi de m'occuper de vos caves à vin, de vous trouver les meilleurs vins possibles pour ce que vous voulez, de vous faire une belle offre sur mesure et tout ça. Donc envoyez-moi un message et on fait ça ensemble. Voilà, je vous laisse tranquille, bonne écoute, à bientôt. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show dans lequel je reçois Jean-Baptiste Duquesne. Jean-Baptiste a une histoire un peu particulière puisque après avoir créé un site de cuisine qui s'appelle 750 grammes, certains d'entre vous le connaissent forcément, il file à Bordeaux et rachète des vignes. Ça nous donne quelque chose d'assez exceptionnel. Il m'a été recommandé par Laurent David dans un des précédents épisodes du podcast. Laurent m'avait prévenu, Jean-Baptiste est un vrai pirate et j'ai pas du tout été déçu, je me suis régalé dans cet épisode. C'était passionnant, on a parlé de plein de choses, on a parlé de cépages oubliés, de terroirs à Bordeaux. Bref, je suis certain que vous allez vous régaler avec cette interview. Profitez-en, si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Suivez-moi aussi sur Instagram, ça s'appelle 20 sur 20, 20-du-bas sur 20. Je vous dis à très bientôt, salut, ciao ciao. C'est parti. Bonsoir Jean-Baptiste.
Bonsoir.
Alors tu nous accueilles avec d'ores et déjà un petit bruit de dégustation. Les fidèles auditeurs, ils sont de plus en plus habitués.
Mais on commence par un entre-amis, un grave blanc pour se mettre en bouche. C'est un peu gourmand, c'est croquant. Ça va nous rendre bavards.
Bah écoute, j'ai hâte que tu nous racontes l'histoire de tout ça, pardon. Mais avant tout, est-ce que tu peux commencer par te présenter?
Alors, moi, j'ai 50 ans aujourd'hui. Je suis vigneron depuis 5 ans. Donc, je suis vigneron en deuxième carrière. Après une première carrière où j'ai commencé dans le négoce de vin à Bordeaux. J'ai créé ma boîte de négoce de vin et j'ai travaillé sur des vins du monde. Là, aujourd'hui, c'est la maison Valade Transandine que j'avais créée à l'époque. Puis de fil en aiguille, hein, parce que j'ai démarré en 95, mais c'est des années où on est à l'avènement de l'Internet, les autoroutes de l'information à l'époque. Et puis en fait, j'ai très vite basculé dans le digital. J'ai lancé un site de e-commerce en 99 qui s'appelait 75centilitres.com, qui a pas marché parce que c'était un peu tôt. Les gens n'avaient pas encore d'email, donc c'était un peu compliqué d'acheter du vin sur Internet. Donc faut pas être trop en avance.
Ça devait être compliqué d'en vendre aussi, non?
Bah ouais,
même le process de payer, de
bah partir, non, le paiement marchait, ouais. mais il y avait pas de clients, quoi.
Ouais.
Il y avait pas encore de consommateurs, et puis il y avait encore des craintes des consommateurs sur l'achat sur Internet. Il y avait aussi une logistique qui était pas en place. C'est-à-dire aujourd'hui, livrer 12 bouteilles, ça se fait. À l'époque, il fallait passer par de la messagerie et c'était des choses un peu compliquées. Puis voilà, de fil en aiguille, comme 75centilitres.com, ça fonctionnait pas, mais j'ai lancé un site de recettes de cuisine qui s'appelle 750grammes.com. Et là, à force de travail, mais ça a très très bien marché. C'est devenu le deuxième site de recettes de cuisine en France. Et je l'ai revendu à un grand groupe média en 2016. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, ça y est, je vais pouvoir enfin réaliser le rêve de ma vie. Je vais pouvoir devenir vigneron. Et donc c'est comme ça que j'ai racheté Château Casbonne. Je suis cette aventure depuis 5 ans maintenant avec beaucoup de passion.
Alors on va forcément venir sur le château, même sur l'histoire de ce rachat, etc. C'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Mais avant, raconte-nous comment est venue ta passion du vin, parce que donc tu nous dis tu lances un site en 98, mais comment ça se fait que tu avais cette appétence ou
alors moi je suis originaire de Gironde. J'ai vécu à La Réole, donc pas très loin du domaine. J'ai une famille où on boit du vin à table, mais mon père est pas un grand connaisseur, même c'est le moins qu'on puisse dire, donc une bouteille du dimanche. Et en fait, après des classes préparatoires, j'intègre une école de commerce à Lille. Et en fait, c'est à Lille que j'ai découvert la passion du vin, parce que j'ai créé le club d'œnologie de l'école. J'ai créé Dionysos Sedec. Et pendant 2 ans, 3 ans, on a, avec un Éric Dugardin, le meilleur sommelier du Nord, vice-meilleur sommelier de France, quelqu'un d'assez brillant, on a découvert l'univers du vin, appris à déguster, appris à découvrir les terroirs. Et moi, ça m'a absolument passionné parce que le vin, en fait, ça rapproche deux univers, ça rapproche un univers d'essence et un univers intellectuel. Parce que c'est pas que d'essence, parce que le vin c'est vraiment un sujet très intellectuel dans l'approche, et c'est que quand on arrive à rapprocher des connaissances de la vinification, des cépages, des terroirs et une approche olfactive et du goût, mais quand on match les deux, c'est absolument magique, quoi. Et c'est cette passerelle entre l'essence et l'intellect qui, je pense, qui a résonné en moi et que tout de suite, je me suis dit, si un jour je travaille, quand je commencerai à travailler, je travaillerai dans le vin. Et c'est comme ça que j'ai créé ma première boîte dans le vin tout de suite. Je me suis jeté dans le bain sans rien y connaître. Et c'est comme ça que j'ai créé ma première boîte de négoce de vin.
Alors, donc effectivement, t'as commencé par le négoce de vin, puis t'as fait le site, c'est ça?
Tout à fait, ouais.
Ouais. Alors, raconte-moi comment c'était de commencer le négoce. Alors, en plus, tu m'as dit de vin étranger, c'était dans les années 90.
C'est un peu après, mais en fait, j'ai démarré en 95. J'étais dans mon appartement, ma petite SARL, pas d'argent, pas de clients, pas de connaissances dans le vin. Et je faisais vaguement des tarifs sur 3 ou 4 références que j'avais trouvées. Donc, je savais pas comment j'allais vendre du vin et à qui j'allais le vendre et ce que j'avais à vendre. C'est à ce moment-là qu'arrive 95, tout de suite, à peine j'ai créé ma boîte, j'ouvre France Inter, le téléphone sonne à l'époque, et il y avait un téléphone sonne sur les autoroutes de l'information. Et là, je me suis dit, c'est formidable, je vais vendre du vin sur les autoroutes de l'information. En fait, c'est comme ça que j'ai démarré. J'ai créé dans la nuit, j'ai créé mon site internet en 95. J'étais premier négociant en vin de Bordeaux à créer un site internet.
C'est dit.
Et puis au bout de quelques semaines, j'ai des gens bizarres, des Chinois, qui me contactent en me disant, je veux un conteneur de vin de Bordeaux à $1 la bouteille. Puis je me dis $1 la bouteille, c'est pas très cher, ça marche pas, on peut pas faire de Bordeaux $1 la bouteille. Puis il y en a un deuxième, un troisième qui pose la même question jusqu'à ce que je comprenne que pour eux un conteneur de un Bordeaux $1 la bouteille, c'est un conteneur de 20 tables avec une marque. Et là j'ai commencé à sourcer des fournisseurs dans l'Hérault, et puis j'ai commencé à packager des marques, créer des marques, j'ai commencé à exporter du vin à Macao, en Chine, comme ça, juste sur des gens que j'avais rencontrés sur Internet. Et c'est comme ça que j'ai démarré, en fait.
Incroyable. Je trouve ça fascinant comme histoire. T'es allé les voir après?
Ah ben forcément, ouais. Après j'étais à Hong Kong, les rencontrer à l'occasion de Vinexpo Hong Kong. J'ai découvert d'ailleurs un monde du commerce qui a rien à voir avec nous, parce que mon importateur c'était un Chinois qui par ailleurs était propriétaire de 3 cliniques à Hong Kong. Il disait j'ai entendu dire que le vin ça se vend bien en Chine, donc je vais faire l'essai d'emporter 3 conteneurs. Donc une agilité de commerce où des gens pouvaient basculer d'un métier à l'autre, un commerce versatile. On était dans les années 96-97, aussi un commerce versatile, parce que le même importateur qui m'achetait 2 conteneurs de vin pouvait décider 2 ans après d'arrêter d'importer du vin parce que c'était pas le plus lucratif et qu'il avait trouvé autre chose. Donc ce marché-là était pas encore structuré, ce milieu des années 90. Mais moi, ça m'a permis de démarrer, de commencer à comprendre le métier, comprendre les problématiques douanières, à manier les crédits documentaires pour me faire payer. C'est comme ça que j'ai débuté un peu à essayer de vendre du vin.
Et là, qu'est-ce que tu te disais à ce moment-là? Parce que tu devais être tout seul, t'avais pas d'équipe? T'étais tout seul, t'avais des fournisseurs.
J'étais fondamentalement pas très bon. je devais être en demi-dépression. Et puis après, dans cette situation-là, on empile des petites briques, on franchit des petits paliers, et puis des semaines, des mois, et puis on commence après à trouver des pistes, qu'on commence à gagner sa vie. Mais c'est une période assez laborieuse. J'en suis fier parce que ça m'a appris énormément de choses, mais c'était pas vraiment une bonne idée de se lancer dans le négoce de vin sans relation, sans argent, sans réseau. Je pense que c'était un peu un coup de tête, mais je pense qu'on est aussi entrepreneur quand on se jette à l'eau, parce que si on essaye de rationaliser, d'essayer de se demander si oui ou non on peut faire, en fait on fait rien. Donc moi je suis un grand adepte de la création d'entreprise sans business plan, parce que le business plan c'est le meilleur moyen de renoncer à ses projets.
Je suis assez d'accord, c'est assez marrant. J'ai une petite histoire, les auditeurs la connaissent pas trop, mais j'ai rencontré pendant le premier confinement à distance, en ligne, un type qui s'appelle Thibaut, qui est devenu mon ami, qui est d'abord devenu mon associé puis mon ami, et en fait on cherchait à entreprendre ensemble. Lui il a un oncle qui fait du vin en Roumanie, et on se disait putain, il faudrait qu'on monte une boîte ensemble parce qu'on s'entend bien, on a un profil qui est similaire et tout, c'est marrant. Et en fait on a creusé et on a créé une boîte qui vend des affiches sur le vin.
D'accord.
Et ça fait toujours, là on est au moment d'enregistrer ce podcast, on est en pleine période des fêtes de Noël, et ça fait un carton.
Je les ai vus, je les vois.
C'est possible.
Je les ai vus, je reçois des emailings de temps en temps, me proposant d'acheter ces affiches.
Je t'ai pas vu parmi nos clients, hein? C'est pas normal.
Non, j'ai pas encore commandé.
mais en fait c'est très vrai, et tu vois, ça c'est une boîte qu'on a créée comme ça, en plein confinement, à distance. Sans business plan, on savait que...
Alors j'ai eu une petite activité de vente d'affiches, d'affiches autour du vin. Ça s'appelle, et ça c'est toujours géré, ça s'appelle la feuille de vigne.
Okay.
On éditait des cartes du vignoble un peu en mode plan de métro, choses comme ça. Donc aujourd'hui c'est Julie qui travaille avec nous, qui a repris le projet à son compte, mais qui a toujours une petite activité autour de ça, qui est très sympathique.
Trop cool. C'est assez marrant. Alors c'est plutôt cool. Et puis il y a plein de styles différents, tu vois, en métro, en rétro, un peu plus moderne, etc. Et bah effectivement, pas de business plan, on sait pas trop où on va. On sait que quand on vend une affiche, on est à peu près rentable, on perd pas d'argent, etc. C'est le principal, et ça roule, quoi.
Bah je pense que c'est souvent comme ça, en fait. On fait des tentatives, on essaye des choses, on voit ce qui marche pas, on débrief, puis après on rebondit, on prend un virage, et en se mettant à l'ouvrage, en fait on apprend plein de choses, quoi.
Pour toi, c'est ton moteur, c'était le business, c'était le fait d'être libre, c'était le fait de faire ce que tu voulais.
Alors moi, mon moteur, en fait, c'est, je pense que je suis incompatible avec le monde du travail. En fait, j'étais incompétent, quoi. J'étais fondamentalement incompétent. Je me suis dit, si je bosse dans une boîte, j'avais fait quelques stages dans des grandes entreprises. Je me dis, si je bosse dans une boîte, c'est jeu politique, c'est jeu de présentation. Ça, je sais pas faire. Je sais pas faire, j'ai pas envie de le faire. Donc, j'aurais été éternellement moins 10 ans et j'aurais été moins bien vu que mes collègues. Donc, je me suis dit, en fait, il faut que je crée un monde qui me ressemble, en fait. Moi, je crée une entreprise pour créer un écosystème avec ses règles du jeu, avec ses valeurs, avec des gens que j'ai choisis, avec des gens avec qui j'ai envie de travailler et qui fait que ben, je me sens à l'aise dans cet écosystème. Mais moi, je crois que la motivation fondamentale, c'est de me créer un cocon de protection dans lequel je me sente bien et dans lequel mes qualités s'expriment. Et j'avais toujours été mon moteur, quoi, de faire ce qui me faisait plaisir. Donc je suis un peu un dilettante de la création d'entreprise.
Donc du coup, après cette entreprise de Megos, c'est le moment où t'as créé 75 centilitres, c'est ça?
Non, ah oui, après, ouais. En parallèle, j'ai lancé 75 CL, avec des amis. Au bout d'un an et demi, on s'est planté parce qu'on s'était lancé dans deux pays. En fait, c'était mes stocks à Bordeaux qui servaient à financer les activités internet. Donc ça dure un temps. Donc j'ai revendu cette activité de négoce à un de mes associés qui est Jean-Luc Soubi, qui aujourd'hui a brillamment pris le relais de Valade Transandine et qui en a fait le premier acteur de l'import de vin du monde de qualité. Il importe des maisons remarquables un peu partout. Il a fait un travail remarquable de plus de 20 ans autour de Valade Transandine. Donc j'en suis très fier de voir que j'ai posé une graine et puis elle a bien poussé, quoi. Et puis après, à ce moment-là, j'ai cherché du travail et puis changé de métier. Je suis passé dans l'internet. Je travaillais 2 ans dans le digital, et en parallèle, je me suis dit, puisque 75cl.com, ça n'a pas marché, je vais faire 750g.com, parce qu'on cuisine plus souvent qu'on boit du vin, donc je me suis dit, ça va mieux marcher.
Pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains.
Quand même pour tout le monde. Quand même pour tout le monde. Et donc voilà, c'est comme ça qu'en parallèle, le soir, je faisais mes copier-coller, je rédigeais des recettes de cuisine. Je me rappelle la première année, j'appelais ça le 1000 bornes. Je me disais à la fin de l'année, j'aurais 1000 recettes sur le site internet. Et j'ai échoué, j'ai fini à 750 recettes. Donc sur 750 grammes, c'était pas mal. Et puis après, de fil en aiguille, après, on a commencé à mieux organiser, que je commençais à salarier quelqu'un, commençais à structurer, et puis après ça a bien fonctionné parce que j'avais très tôt compris comme je suis une des premières générations professionnelles à faire de l'internet dès 95, j'en maîtrise tous les ressorts de communication, les clés de succès, le SEO, l'emailing, les sujets d'acquisition, de marketing, aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, les réseaux sociaux et toutes ces composantes, c'est quelque chose qui sont mes compétences au final aujourd'hui.
Ouais, t'es arrivé très tôt dessus. Oui. Et 750 grammes, alors moi je devais être trop jeune pour connaître le début, mais en tout cas aujourd'hui c'est quelque chose de
ouais, c'est devenu un très joli site avec une très belle offre, avec des gens de qualité qui font du bon boulot, et je regarde ça un peu de loin, mais je suis aussi très fier de ce bébé.
Ouais, c'est clair. Et c'est pareil, c'est quelque chose, t'envisageais rien au moment où tu as créé ça, tu t'es dit ce serait marrant de créer un site.
Ah, mais je me rappelle très bien à l'époque où je faisais ça le soir, ma femme me disait, mais pourquoi tu perds ton temps à bosser sur des trucs après 10 heures le soir alors que t'as un métier qui te fait gagner ta vie la journée, quoi. Mais j'ai dit, tu verras, c'est mon métier qui me fait gagner ma vie et qui m'emmerde. Ben, c'est le deuxième qui prendra le relais parce que c'est ça qui me passionne. Donc c'est aussi une de mes atavismes. J'ai souvent 2-3 projets en même temps et au final je suis en train de semer des graines pendant que j'ai un projet qui fonctionne parce que ça permet de pas réfléchir et puis le jour où la vie fait qu'on met fin à un projet. Eh ben on peut passer à autre chose et on est déjà lancé sur de nouvelles aventures qui passionnent.
On est fait pour s'entendre. Je pense que Laurent a bien fait de nous mettre en relation. D'ailleurs, je l'ai pas salué, mais merci à Laurent David qui était passé dans un autre épisode du podcast que vous pouvez écouter. Et c'est lui qui nous a mis en relation.
On est tous les deux des néo-vignerons avec des approches un peu singulières, avec un regard neuf. On vient d'ailleurs, donc on bouge des lignes, quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est là-dessus qu'on se rassemble.
Alors raconte-nous du coup tu vends 750 grammes
et je me mets en quête d'un vignoble. Alors au début, j'étais en recherche de... Je me disais... En fait, moi, mon leitmotiv, c'est trouver des vignes sur des terroirs qui sont pas trop élevés en prix, parce que je considère... J'aurais pu acheter des belles vignes à Pessac-Léognan. J'avais bien réussi cette première... la session d'entreprise, donc j'avais des moyens, je pouvais partir un peu, j'avais le choix en termes de terroir. Et mais en fait, moi, ce que je me dis, c'est que moi, j'ai pas de valeur ajoutée sur un terroir prestigieux, parce que globalement, pourquoi un vin est cher? Le vin est cher parce qu'un terroir est cher. C'est la première composante du prix d'un vin, c'est le prix du terroir, le prix du foncier, et réciproquement. Si les prix montent, ben le foncier monte, donc c'est intimement corrélé, parce que dans un prix de vente, ça impacte la capacité de l'entreprise à générer de la valeur pour ensuite préparer des successions qui sont un leitmotiv dans le milieu viticole. Donc moi, j'ai pas de valeur ajoutée à arriver sur un terroir de Pessac-Léognan, de Saint-Émilion ou de Pauillac, parce que mais il faut, si la bouteille de vin se vend 50 €, ben il faut être capable de faire mieux. Faut être capable de faire mieux. Donc moi, plutôt mon leitmotiv, c'était de trouver des jolis terroirs dans des abordables pour pouvoir avoir une taille critique et pour pouvoir me distinguer, créer des excellents produits et créer de la valeur ajoutée. Je pense que en termes de choix d'entreprise, je pense que j'ai plus de valeur ajoutée à partir d'un terroir et être capable de valoriser des vins que d'essayer d'optimiser de l'excellence qui est déjà obtenue par un certain nombre d'acteurs à Bordeaux, mais un peu partout dans le monde. Et du coup, racheter un grand cru ou un des vins de terroir prestigieux, ça veut dire, au final, ça veut dire gérer une rente de situation. Ça veut dire bien la gérer, ça veut dire bien effectuer. Mais les gaps de valeur sont compliqués à... Et comme j'étais pas là pour placer de l'argent, mais j'étais... parce que c'est pas ça qui m'anime, mais j'étais là pour bâtir un projet et écrire une histoire. Donc je cherchais des terroirs. Donc je cherchais des terroirs dans des appellations de qualité, dans des appellations comme Canon Fronsac, comme les Côtes, les Castillons, les Graves, ces appellations-là. Et puis je suis tombé, à force de recherche, je suis tombé sur... On m'a dit, dépêche-toi, là, il y a une propriété, il y a 27 hectares de vignes, faut pas rater l'occasion. Et donc j'ai appelé, j'ai été visiter le vignoble, je suis tombé sur une très belle propriété avec une belle histoire qui était peu connue mais avec des très beaux terroirs, des vignes en bon état. Et puis voilà, après on conduit l'aventure et puis on discute quelques mois, on boucle le financement et puis on se jette à l'eau. Donc j'ai eu les clés au 5 septembre 2016, et avec un chai, pas de matériel, pas d'équipe, et il fallait vinifier. Et puis, voilà, on a trouvé des solutions, on a sorti le premier misime, et puis, donc c'est un misime qui était en conventionnel, sur une propriété, donc j'ai vendu tout au négoce, parce que je voulais pas ça intégrer, ça m'intéressait pas de commercialiser ça, puisque dès le début, je me suis dit, moi je pense que ce que je fais a du sens si je vais en bio et en biodynamie, parce que je pense que le vin est fondamentalement un produit accessoire. Et puisque c'est un produit accessoire, je pense que les consommateurs, moi le premier en tant que consommateur, voudront boire du bio. Voudront se faire plaisir en boivant bio, en s'inscrivant dans une démarche responsable. Alors ça, c'est le bio, il y a plusieurs... Le bio, moi, j'y rentre pas parce que il y a des pesticides, des résidus dans la bouteille, parce que je pense l'argument du goût, l'argument des traces de pesticides dans le vin, je pense que c'est un mauvais cheval de bataille de se battre là-dessus, parce que de toute façon, pour moi, c'est de l'hypocrisie, parce que si on consomme du vin qui est bio toute l'année chez soi, et puis après on va manger au restaurant le demain midi, on va pas s'assurer de la traçabilité de la tomate qui nous a été servie à manger. Donc de toute façon, on peut pas être aujourd'hui dans une société dans une traçabilité totale. Donc pour moi, c'est pas le sujet. Par contre, le sujet du bio, et ce que je vis depuis 5 ans, c'est un sujet de vie des terroirs. C'est absolument magique de voir comment la vie des sols se transforme, comment quand je suis arrivé, le vigneron qui m'a accompagné m'a fait sentir le sol et m'a dit sans ça, tu vois, il y avait des mousses sur le sol, les sols étaient tassés, on avait un sol qui sentait le renfermé, le moisi, Et il m'a dit, tu vas voir, d'année en année, le sol va pas sentir de la même façon. Et aujourd'hui, 5 ans après, ça sent pas encore le sous-bois, ça serait mon objectif, c'est-à-dire avoir des vies, des complexes argilo-humiques complexes avec une vraie vie des sols, je suis pas là, mais j'ai déjà des sols qui sont fleuris, avec des bonnes odeurs de sol, et c'est le jour et la nuit, et la vie me le rend avec des raisins qui progressent d'année en année, et c'est juste remarquable. Je pense que je suis intimement convaincu que la pratique qu'on fait sur nos sols a un énorme impact sur la qualité des produits et que il y a en conventionnel on peut sortir de grands vins parce qu'on a des technologies, on a des techniques, on a des savoir-faire qui sont immenses. Déjà le conventionnel s'oppose pas à la vie des sols parce qu'il y a des gens conventionnels qui travaillent très très bien leur vigne et leur sol, mais je pense que la clé et la vraie clé, le motif, c'est la vie des sols. Tout part du sol.
Ta réaction, déjà je suis très vrai, très d'accord là-dessus, je trouve ça ultra vrai. Et en fait, t'es en bio aujourd'hui.
Alors je suis labellisé bio, mais ouais. Je vais entamer ma 5e année en bio.
Et la biodynamie, tu regardes un peu?
On est en biodynamie aussi.
L'entrami
qu'on a dégusté, il est labellisé Déméter et bio.
Pourquoi la biodynamie?
Alors biodynamie, j'ai pas beaucoup de réponses à ça parce que je suis trop cartésien pour y comprendre quelque chose. Mais c'est un chemin d'humilité, c'est-à-dire que je constate que j'ai des vignerons en biodynamie, quand je déguste leur vin, ça fait partie de mes vins favoris. Après la relation de causalité, est-ce que c'est bon parce que c'est en biodynamie, j'en sais rien. Je pense que en 5 ans de travail, je n'ai pas le recul aujourd'hui pour dire qu'est-ce qui est fait, parce qu'on fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses. On travaille nos sols, on travaille avec des fumiers d'un éleveur à proximité, donc on rajoute de la matière organique, on enrichit nos sols, et tout ce travail qu'on fait sur la vigne, sur la biodiversité, elle a un impact. Et la biodynamie, et aussi on fait de la biodynamie. Au final, c'est pour ça que la biodynamie, elle est dure à mesurer. C'est parce que on peut pas isoler un paramètre d'autre. Et après, pourquoi je suis en biodynamie? Je suis aussi en biodynamie parce que le bio n'est pas, pour moi, un cahier des charges suffisant en termes d'exigence. C'est-à-dire, le bio, c'est un minimum à pratiquer. Et qu'au final, le label qui englobe le plus de viticulteurs amoureux de leur sol, leur terroir, l'environnement, c'est pour moi la biodynamie. C'est là qu'on retrouve beaucoup de grands vignerons. Et du coup, c'est une sorte de communauté dans lequel je trouve qu'il y a le plus d'homogénéité dans l'approche du vin, dans l'approche des terroirs, dans la passion pour le produit, plus que dans une, on est avant tout des passionnés qui veulent atteindre un résultat sur le produit. On produit pas une matière première, on produit pas du raisin comme on produit du blé. Et en sens, c'est pour ça que c'est là-dedans que je me retrouve le plus à l'aise. Mais j'aimerais que la biodynamie soit plus documentée, sur lequel on apporte plus de preuves, parce que peut-être que dans la biodynamie, il y a une partie des pratiques qui sont au final peut-être qu'il y a des choses qui fonctionnent pas et qu'on ne peut pas, on n'arrive pas à isoler. Il y a des choses qu'on observe. Il y a des choses, par exemple, les 500P, elles ont un effet évident de levain sur la vie des sols parce que, on y apporte une vie bactérienne et on enrichit la complexité du sol. Donc, je suis un sentiment convaincu. Les silices aussi, dans leur effet sur le feuillage, sur la lumière. Après, est-ce que les 502, 503, 504, 506 ont un effet? J'en suis incapable et j'en fais juste appel à l'humilité pour ni affirmer que c'est formidable, ni arrêter parce que j'y comprends rien. Donc j'observe ça et je conduis ça avec beaucoup d'observation et beaucoup d'envie d'apprendre.
Ouais, en fait, c'est assez marrant parce que j'ai interviewé quelques personnes qui sont en biodynamie intégralement, etc. Et Et en fait, quand tu... je me suis interrogé du coup sur est-ce que ça a vraiment un impact ou pas. Alors ce que tu dis sur le goût des vins est en général vrai. C'est vrai que j'apprécie plus facilement un vin en biodynamie. Après, j'ai pas fait les dégustations à l'aveugle, donc en vrai, je saurais pas
bien
dire.
Sûr, le sujet est pas toujours très objectif, ouais. Mais
en fait, ma conviction à moi, c'est que en biodynamie, comme tu l'as un peu dit, tu fais des choses qui sont bons pour le sol, bons pour la vigne. Et en fait, quand tu fais quelque chose de bien, au pire, il se passe rien, mais t'auras fait quelque chose de bien, t'auras un peu plus de
le meilleur. Je pense qu'on est un certain nombre d'éléments sont relèvent de la main verte, quoi.
Ouais,
pourquoi il y a des gens qui ont la main verte? Ils ont la main verte parce que ils aiment leurs plantes, quoi. Et qui s'en occupent, quoi. Donc ils sont sensibles, ils observent, donc ils font un certain nombre de micro-actions qui ont un impact.
Ouais, c'est ça. C'est
qui ont un
ça.
Impact. Et probablement aussi les préparations de la biodynamie, les tisanes. Ça, c'est évident que quand on dynamise nos traitements avec du cuivre, avec des tisanes, sur la prêle, sur l'écorce de chêne, sur un certain nombre de tisanes, elles ont des impacts, quoi, qui sont évidents et qui s'expliquent, quoi, ou un purin d'ourtie sur le rapport à l'azote de la plante, choses comme ça. Ce sont des remèdes de grand-mère qui ont du sens, quoi. D'ailleurs, certains sont vendus dans le commerce aujourd'hui, donc qui sont repris par des industriels qui commercialisent ces solutions.
Ouais, non, c'est clair. Et c'est toutes ces sommes de micro-actions, ces petites habitudes, ces petites choses qui à la fin font un effet cumulé qui est énorme. Bon, alors raconte-nous un peu ce vin qu'on a dans notre verre qui nous fait parler.
Alors,
et qui nous régale.
Alors, c'est un paradoxe parce que j'arrive à Bordeaux alors que je me suis installé à Bordeaux alors que c'était le vin que je buvais plus, quoi. C'est-à-dire, j'ai été un amateur de Bordeaux dans les années 2000. Depuis quelques années, j'ai du Bordeaux en cave et j'ai tendance à pas ouvrir parce que je suis un passionné de vin et je bois tout. Moi, j'adore le Jura, j'adore la Loire, j'adore le Rhône-Nord, les belles Syrah, j'adore aussi évidemment les vins du monde, de par mon parcours et ce que j'ai fait. Je trouve qu'il y a des choses un peu formidables un peu partout dans le monde. Et je me suis un peu installé à Bordeaux par une rencontre à un vigneron et puis un effet d'opportunité. Et puis il se trouve que je me suis retrouvé à, je sais pas si c'est le hasard, à 15 kilomètres de là où habitaient mes parents, quoi. Ils habitaient encore là quand je me suis installé. Et donc je me suis dit, tiens, c'est sympathique, quand je reviendrai à Bordeaux, mais j'irai dormir chez les parents, ça permettra de les voir, et puis j'irai travailler dans les vignes. Donc je me suis installé à Bordeaux et du coup j'arrive à Bordeaux avec un certain nombre d'idées d'analyse sur le vin de Bordeaux. Globalement, je suis pourquoi j'aime pas le vin de Bordeaux ou j'aime pas. J'aime pas. Disons que c'est pas un de mes vins préférés.
J'espère que tu sais que ce sera le titre de l'épisode. Jean-Baptiste Duquesne, pourquoi je n'aime pas le vin de Bordeaux. En gros.
Je l'aime pas parce que le Bordeaux a fait des choix globalement dans ces grandes propriétés qui ont tiré l'image de Bordeaux. Ils ont fait des choix de faire des vins de garde, et on peut à Bordeaux valoriser un vin s'il se garde longtemps. Et donc ça veut dire, ça impose d'avoir des vins avec des extractions, avec de la matière, avec du bois pour créer des structures. Donc on en arrive à voir sur les grands crus un vin dont le paradoxe est, je vends une bouteille qui n'est pas agréable à boire par le consommateur aujourd'hui, à l'instant T, et qui est plus un objet que iconique qu'on va conserver dans sa cave et boire à long terme. Et sur les vins blancs, sur le vin rouge, je trouve que c'est en inadéquation totale avec ce que je suis en tant que consommateur, en tant que cadre, et en inadéquation avec mes amis cadres sup qui boivent plus de Bordeaux non plus, parce que les gens ont de moins en moins de caves, ils vont chez le caviste, ils disent qu'est-ce que t'as à me conseiller pour ce soir, et on dit tiens, je te conseille ce Pulsar là qui est fabuleux, tu vas voir un fruit, puis le lendemain on lui dit ce Saumur Champigny, tu vas voir, et puis le lendemain c'est un Gros Hermitage, et ces vins-là, ces régions-là, ont marketé des produits pour répondre à des attentes des consommateurs qui veulent se faire plaisir. Et le Bordeaux est du coup pas dans l'échelle de proposition de l'attente du consommateur dans ces Bordeaux rouges. Et paradoxalement, sur les Bordeaux blancs, Bordeaux a pris un autre parti pris, qui est faire des vins blancs sur la fraîcheur sur les aromatiques, donc des vins assez thiolés, sauvignonnés, au final des vins chiants, quoi. Je veux dire des petits vins à huîtres. Moi, ça m'emmerde, mais fondamentalement, j'ai pas envie d'en boire un deuxième verre. Donc j'arrive à Bordeaux en prenant le contre-pied total là-dessus parce que j'ai envie de faire des vins de Bordeaux que j'ai envie de boire. Donc globalement, je travaille des vins blancs plus sur la maturité, sur la couleur. Donc ce qu'on a goûté, là, on l'a mis dans une bouteille transparente parce que j'assume cette couleur presque or sur ce vin blanc sec. Alors les gens me disent, mais c'est sucré. Non, c'est sec, vous allez voir. Et donc je fais plutôt des vins terroirs en travaillant les maturités, en poussant assez, en cherchant de la matière, en cherchant des amertumes sur le vin blanc. Et je fais au contraire des vins rouges où au contraire je veux pas du tout d'extraction, je veux de la fraîcheur, je veux de la buvabilité. Moi j'ai envie de me faire plaisir, donc je vais plutôt faire des Bordeaux plutôt ligériens dans l'approche. Et ça structure ma gamme. Et donc j'ai aujourd'hui trois gammes. J'ai une gamme entre amis qui est des vins de cuve. J'ai une gamme le grand vin où là je vais travailler l'exercice du grand vin à la bordelaise avec du boisé. Alors je travaille donc moins boisé que Bordeaux, vous l'avez compris. C'est-à-dire à la fois en vin blanc et en rouge, je vais essayer de trouver de la fraîcheur, de l'équilibre derrière un boisé qui va être discret, qui va apporter de la complexité. Et je travaille des parcellaires, là plutôt dans une culture bourguignonne, où je vais isoler des terroirs. Je vais isoler des terroirs parce que quand je me rends compte que sur des lots de Merlot entre mes parcelles, j'ai 15 jours à 3 semaines d'écart de maturité, eh bien, je dis c'est pas les mêmes terroirs, quoi. Et j'ai pas un lot qui goûte pareil. Et j'ai envie d'isoler des lots pour montrer qu'à Bordeaux, on a aussi une palette de terroirs qui est au final plus complexe, plus large que ce qu'on trouve en Bourgogne, par exemple. Parce qu'en Bordeaux, on va retrouver sur une même propriété des argiles, des calcaires, des graves, des limons, des sables, des parcelles orientées nord, orientées sud. Donc on va avoir une palette de terroirs absolument magique dans la géologie de nos propriétés bordelaises. Et Bordeaux, de ces terroirs, a décidé de définir une stratégie de marque, une stratégie d'assemblage pour, globalement, ça fait le succès de Bordeaux, et je renie pas ça, mais ça a été une stratégie d'assembler, de trouver de l'excellence par l'assemblage, mais du coup, on a uniformisé le goût, quoi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire goûter comment des lots, au final, ont des identités, des particularités très différentes des unes des autres, et comment, au final, dans la dégustation, on peut prendre son pied, un jour, goûter un merlot sur grave profonde, et le lendemain, aller plutôt un merlot sur limon, ou un merlot sur j'ai une parcelle où il y a des calcaires astéries, les calcaires astéries de Saint-Émilion, qui affleurent entre 1 mètre et 3 mètres de profondeur, et j'ai des graves, et derrière, en dessous j'ai des calcaires astéries et on retrouve le terroir, on retrouve les calcaires sur ce merlot, on retrouve les finales très crayeuses, très avec des tanins assez costauds, avec de la structure, et alors que j'aurais pas du tout ça sur un autre terroir, sur des graves, quoi. Et donc du coup ça me passionne de revisiter le terroir de Bordeaux avec cette approche parcellaire, et qui est compliquée comme approche parce que si je poussais même dans le juridique, fondamentalement, dans les appellations bordelaises, j'y ai pas le droit, quoi. Les règlements européens disent qu'on a le droit de mentionner les parcelles, les parcellaires dans pour élaborer du vin et pour vendre des AOC, sous réserve que les AOC le permettent. Et c'est pas une spécificité bordelaise, c'est pas une revendication. Donc sur ces sujets, je suis complètement à contre-courant des us et coutumes parce que je suis pas conformiste et que j'ai envie de me faire plaisir, quoi. Et donc donc là on a parlé des trois gammes et la quatrième gamme, c'est la gamme des cépages oubliés qui arrive parce que mon grand sujet c'est le grand sujet qui me passionne. Quand je suis arrivé, la première question que j'ai posée, c'était comment autrefois il y avait quoi dans les vignes, et les réponses m'ont pas satisfait parce qu'on m'a répondu non, ça a toujours été du merlot et du cabernet sauvignon aussi lointain que je me souvienne. Mon grand-père me dit avait que ça. Et puis il y en a d'autres qui me disaient si on a oublié ces cépages, c'est qu'ils étaient pas bons. Alors ça, je trouve que c'est complètement con comme réponse, quoi. C'est-à-dire comment on peut dire ça sur un truc qu'on connaît pas, quoi. C'est du stéréotype absolu, quoi. C'est débile, quoi. C'est-à-dire, et du coup, ça m'a énervé. Et du coup, ça fait 5 ans que je recherche tous les livres qui ont été écrits sur le vin de Bordeaux. J'ai retrouvé plus d'une centaine d'ouvrages et je les épluche un par un et puis je déniche de mois en mois de nouveaux cépages. Donc j'ai la preuve qu'ils ont existé à Bordeaux. Alors c'est compliqué, hein, cette empélographie, parce qu'il y a beaucoup de noms. Un même cépage pouvait avoir 1, 2, 3, 4, 5 noms en fonction des terroirs. Par exemple, le Bouchalès que j'ai replanté, il s'appelait le Prolongeau dans le Blayais, il s'appelait le Gros de Judith à Saint-Pessac-et-Léognan, et c'était plutôt, moi, dans ma région, le Grappu. Et donc ce cépage que je retrouve sous des noms différents dans la littérature, ben, il faut faire la relation au Bouchalès, qui est le nom empélographique actuel. Et donc j'ai retrouvé 57 cépages, dont j'ai les preuves qu'ils ont existé à Bordeaux, et j'ai commencé le travail de les replanter un par un, pour être capable de me dire, mais je veux pas croire que le vigneron en 1900 qui plantait ce cépage, c'était un abruti, quoi. Je veux dire, c'est pas acceptable de se dire un vigneron qui en 1900 plantait un de ses cépages qu'il a planté quelque chose de mauvais, quoi. C'est pas vrai, quoi. Le vigneron de 1900, il est comme nous, quoi. Il veut produire un raisin pour faire du vin et pour gagner sa vie avec. Donc si c'est pas bon, il l'aurait pas planté, il aurait déjà disparu depuis longtemps. Donc en 1900, le vigneron, il avait des raisons. Il avait des raisons, et c'est cette quête que j'ai ouverte qui est de redécouvrir pourquoi un vigneron plantait un cépage en 1900. Alors ça veut dire pourquoi, ça veut dire sur quel terroir, c'est-à-dire il plantait pas n'importe où. On va y revenir, pourquoi sur le terroir, parce que mais pourquoi il plantait ce cépage, et puis quelles étaient ses raisons. Alors je vais prendre un exemple. J'ai replanté du Jurançon noir, qu'un cépage qui était très répandu dans le sud-ouest, un peu partout, dont à Bordeaux. À Bordeaux, il s'appelait souvent il avait plein de noms à Bordeaux, le Jurançon noir, mais il s'appelait l'enragé, il s'appelait le gros noir par chez moi, le grand noir. Ce cépage, je l'ai vinifié pour le premier millésime en 2020, et j'ai dit bon, c'est pas terrible, quoi. Ça fait des raisins un peu fruités, un peu c'est facile, il y a une structure tannique modérée, c'est léger. J'ai dit pourquoi pas pour faire du rosé, mais j'ai pas eu un grand coup de cœur. Par rapport à d'autres que j'ai plantés qui sont juste sublimes, quoi. Et puis cette année, on a une année compliquée parce qu'on a gelé violemment, on est dans le sud Gironde, on a eu des températures qui sont descendues à moins 7 degrés pendant les nuits de gel, donc j'ai perdu 95% de ma récolte cette année. Et le Jurançon noir, ben il est reparti, il m'a donné 30 hectos de rendement. Donc et puis il a pas pris de mildiou. C'était une année très chargée en mildiou. Il a fini avec un feuillage magnifique, une vigneur magnifique. Et j'ai compris, en fait, c'était le cépage parfait du vigneron. C'est le cépage qui produisait tous les ans une belle récolte, régulière, homogène. Donc c'est un cépage génial, quoi. Et quand je vois ça, je me dis, mais quand même, on est con. On a mis en place du merlot qui est... Dès que les conditions sont difficiles, il part en mildiou et c'est une horreur. Il faut traiter si on veut récolter. Et derrière, on avait dans notre planoplie un cépage comme le Jurançon noir qui fait des vins charmeurs, des vins de fruits, qui seraient magnifiques pour faire des Bordeaux supérieurs d'entrée de gamme, pour faire des vins de fruits, des vins d'agrément, des vins que les consommateurs demandent. Et le consommateur aujourd'hui, il reproche au Bordeaux d'être trop tannique. Donc, et derrière, on essaye de jouer avec des cépages tanniques comme le Merlot pour essayer de faire des vinifs, s'arracher les cheveux pour faire des vins légers à partir de cépages qui sont pas faits pour ça. Et puis derrière, on avait dans notre planoplie un certain nombre de cépages qui auraient pu répondre à des besoins marketing du marché et qu'on a laissé de côté. Et donc c'est tout ce boulot que toutes ces questions que je me pose depuis 5 ans. Donc c'est comme ça que j'ai écrit un livre. Je viens de publier, va sortir la semaine prochaine, le 14 décembre, Bordeaux, une histoire de cépages. C'était en fait d'essayer de comprendre comment ont raisonné les vignerons, à quelle crise ils ont été confrontés et pourquoi dans le contexte de ces crises ils ont été amenés à changer de cépage. Donc la crise de l'oïdium, la crise du mildiou, la crise du phylloxéra, les crises de mévente, les guerres, le gel de 56, tout ça, ça a eu des impacts énormes sur la géographie du vignoble et ça a amené, et c'est en fait tout ce boulot que j'ai été, qui était d'amener des hypothèses, d'amener des preuves, d'amener des pièces pour pour écrire une histoire qui me paraît qui est mon interprétation, mais qui me paraît conforme à ce qui est plausible qui a dû se passer dans la tête du vigneron à toutes ces époques.
C'est un sujet qui me passionne. Le micro était pas assez fort, tu peux pas beaucoup m'entendre. C'est un sujet qui me passionne. C'est ces pages oubliées ou ces cépages rares, etc. Et tu vois, c'est en fait, moi, ce qui me rend dingue, c'est que t'as une diversité donc qui s'effrite progressivement. T'as de moins en moins de diversité de cépages. Et en fait, comme tu l'as dit sur le Jurançon noir, t'as potentiellement des solutions à des problèmes contemporains qui se trouvent dans des cépages qu'on est pourtant en train de mettre de côté. Et tu vois, le Monstre noir, par exemple, c'est un cépage qui est très tardif aujourd'hui, qui produit très peu de degrés d'alcool.
Bien sûr.
Et en fait, pendant longtemps, tu pouvais te dire, bon, bah, ça vaut pas le coup de le récolter parce que, de toute façon, on va pas faire de vin avec ça, il produit pas assez d'alcool, etc. Et en fait, aujourd'hui, il est nickel.
Ouais, le magnifique travail que fait Plémont.
Exactement, Plémont, il faut.
J'étais en rencontre des cépages modestes, j'étais à la table avec Plémont, on en a beaucoup débattu.
On les embrasse, évidemment.
Et, bien sûr, c'est absolument passionnant, quoi. C'est passionnant de se replonger là-dedans pour on a un patrimoine génétique exceptionnel. Alors, faut quand même revenir aux bases. C'est-à-dire que le gros game changer du marché du vin, ça a été le phylloxéra. Pourquoi? Parce qu'il a changé les règles du jeu avec le porte-greffe. C'est-à-dire que, avec le porte-greffe, ça se dit pas dans le vignoble, parce que dans le poncif du vigneron, c'est je choisis des terroirs adaptés à mes sols, le merlot, le cabernet sauvignon, il se plaît bien rive gauche, rive droite. Donc il y a toute une littérature autour de ça qui est assez bullshit. Je m'explique. Aujourd'hui, ce qui doit être en adéquation avec son terroir, c'est le porte-greffe, quoi. Avant tout. Et le porte-greffe, il a eu un impact énorme. C'est-à-dire qu'il a permis de réduire la diversité de cépages. Parce qu'à partir du moment où j'avais un porte-greffe qui était adapté à n'importe quel sol, je pouvais porter les cépages bordelais où je voulais. Quand on remonte au 19e siècle, il n'y avait pas de cabernet sauvignon dans l'entre-deux-mers. Ou très très peu. Parce que ça marchait pas. Parce que sur les argines, sur les humidités, ben le cabernet sauvignon, il était touché par des maladies, il résistait mal à l'humidité et il crevait. Et donc, à partir du moment où il y a le porte-greffe, ça a permis de simplifier. Donc, en fait, l'histoire du XXe siècle de la simplification des cépages, c'est avant tout une conséquence du phylloxéra. Donc, le drame qu'a connu le vigneron a été une immense opportunité de permettre de simplifier. Alors que si je me mets avant le phylloxéra, ben, j'étais bien obligé de trouver le cépage qui résistait bien à l'humidité, qui résistait bien au sol sec. Et donc, j'étais obligé d'avoir une palette de cépages à ma disposition pour y répondre.
Ouais, c'est clair. Tu parles de porte-greffe. Aujourd'hui, t'es pas en franc de pied. T'es sur des vignes.
Non, je suis pas en franc de pied aujourd'hui parce que j'ai encore trop d'argile. J'ai peut-être une ou deux parcelles sur lesquelles je pourrais faire des essais. Je n'ai pas encore pris la décision. C'est possible que j'y aille, mais c'est pas encore acté.
Ok, ça marche. Qu'est-ce que tu nous fais goûter là? C'est absolument incroyable. Donc je vois à 22 lieux un parcellaire. Donc je suppose que du coup on est dans ton travail de parcellaire que tu mentionnais.
Bien sûr, là on est sur les terroirs de Casbonne, de la parcelle de Casbonne. Ça fait partie des choses que j'interroge. C'est-à-dire que faire du vin, c'est un arbre de décision. En fait, on peut décider de faire du travail à la vigne. On a plein de possibilités. On peut décider de date de vendange, on a plein de possibilités. Puis une fois qu'on a la vendange, on peut décider œnologiquement faire des choses, mettre du soufre, pas le mettre. On peut macérer à froid, on peut presser, pas presser. On peut ensuite, on peut mettre de la levure ou pas mettre de levure. On peut et cet arbre de décision fait que il y a plein possible faire du vin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dire voir résumer la typicité d'une appellation à un goût unique. C'est absurde, parce que vu cet arbre de décision, en fait, je peux plaire plein de vins. Donc moi, la façon dont j'aborde, ma façon de construire des produits, je considère que rien ne m'est interdit. C'est-à-dire si En Italie, ils ont fait des ripasso en reprenant et en revinifiant sur des mares. J'ai envie d'essayer. Dans le Jura, ils ont fait de l'oxydatif, j'ai envie d'en faire.
T'en fais aujourd'hui un peu?
J'ai une cuvée qui est en train de sur des sémillons en oxydatif qui est en cours d'élevage. Parce qu'en fait, tout ça c'est culturel. On essaye de nous expliquer que dans la mythologie du vin, on nous explique que l'oxydatif, il est possible qu'en Jura ou Carrérès. C'est pas vrai, quoi. Je veux dire, il y a plein de cépages qui peuvent marcher à l'oxydatif et faire des choses merveilleuses. Donc, en fait, c'est que des blocages calvignerons dans une non-capacité à explorer de nouvelles pistes. Et puis, avec derrière, toujours la peur de la sanction de l'AOC. C'est-à-dire la peur de sortir du rail, parce que l'AOC est un peu un sésame de commercialisation. Si j'ai une AOC, en fait, j'ai un certain nombre de marchés qui me sont ouverts. Si je veux vendre mon vin à Carrefour, ben sans AOC, c'est compliqué. C'est compliqué de vendre 100 000 bouteilles de vin de France à Carrefour en expliquant que c'est un produit de qualité. Parce que sur le linéaire, il n'y a personne pour l'accompagner. Le consommateur, il connaît pas l'étiquette et il va pas comprendre pourquoi un vin de France vaut 14 € la bouteille. Donc ça veut dire que l'AOC est essentiel. Et du coup, l'AOC, le vigneron, il en a peur. Moi, dans mon cas, donc voilà, on déguste un vin de France, parce que ce que j'ai fait, c'est pas conventionnel par l'appellation. C'est l'idée de me demander pourquoi on ferait pas un vin blanc comme un vin rouge. Donc, avec du contact, de la macération. La macération Sopo sur une vendange sur 80% de sémillon, 20% de sauvignon gris. Et on a fait 12 jours de fermentation au contact des baies. On a goûté tous les jours. Et puis, dès que ça a basculé, on a dit stop. Ça y est, là, je suis bon sur les amertumes. J'ai pas envie de faire un orange, parce que l'orange, c'est quand même un produit très particulier, beaucoup d'amertume qui va pas, j'ai envie de rester sur le registre du vin blanc, mais y apporter de la complexité. Et c'est l'exercice qu'on a fait sur ce parcellaire, les galets de Casbonne, issu d'un terroir, sur lequel on a travaillé un très très beau lot de sémillons qu'on a vendangé à la main et qu'on a vinifié de cette façon.
Ben, je trouve ça ultra surprenant et vraiment incroyable en termes de goût. Enfin, moi, je me régale. Ça fait partie des vins.
Voilà, donc là, à l'aveugle, on peut pas savoir que c'est un Bordeaux.
Ah non, clairement pas.
Mais c'est bon.
Ouais, tu me le mets au milieu de deux autres Bordeaux.
Mais c'est bon, on a envie de le boire. Ouais. Et c'est ça qui est le plus important, au final. C'est-à-dire que l'AOC a été un extraordinaire moteur pour les vignerons. C'est-à-dire, elle a poussé les gens jusqu'aux années 70-80. Elle a permis d'éliminer plein de mauvais vins. Elle a fait un boulot formidable d'accompagnement, d'exigence, de cahier des charges. Elle a fait un boulot formidable, l'AOC. Aujourd'hui, l'AOC, elle est un peu quelque chose qui moyennise et qui empêche. Dès qu'on fait ça, si je le présente à l'AOC, eh ben, on me le refuse. On me dit, ton vin, il est pas conforme au standard de l'appellation, donc on me le refuse. Donc, en fait, on a une certaine impossibilité à faire des bons produits qui sont pas dans le standard. Et bon, moi, voilà, je joue avec ces règles, quoi. Je vais pas hésiter à sortir si j'ai envie de faire une cuvée et que je pense que c'est bon et que j'ai envie de la boire. Parce que si j'ai envie de la boire, ben, il y aura des consommateurs qui comprendront mon intention. Mais par contre, il faut être exigeant. C'est-à-dire, la médiocrité, c'est pas possible, quoi. Il faut que tout soit bon, très bon. Il faut faire du bon vin. Ça, je suis intransigeant là-dessus. Si on a un problème, eh bien, il faut retravailler, quoi. Il faut retravailler. C'est pas possible de commercialiser quelque chose qui est médiocre, quoi.
Ouais, je pense que ça a parfois été le cas pour certaines personnes de vouloir faire original à tout prix et de pas s'attarder sur le goût, sur vraiment ce qu'est le produit. Mais là, c'est pas le cas et ça fait plaisir.
Ah oui, non, c'est ça. Je veux pas que ce soit un vin expérimental.
Exactement.
Quoi. Moi, le critère de tous les vins que je mets dans ma gamme, je veux qu'on ait envie de finir la bouteille, quoi. Je veux dire, on boit un verre, on a envie d'en boire un deuxième, quoi. C'est ça, un bon vin. Je veux dire, c'est pas le vin où on s'extasie et puis au final, à la fin du repas, la bouteille est pas finie, quoi. On la sort, on la débouche, on est avec les copains et puis on se rend pas compte, mais on s'est... D'ailleurs, je constate que vous êtes resservi.
C'est ce que j'allais dire. Comme tu peux voir, on s'est resservi. Donc, on n'a pas fait exprès. C'était juste avant, pendant que tu nous expliquais, on s'est resservi un verre. Mais donc, du coup, c'est que ça marche. Sur ce parcellaire là dont tu parlais justement, donc t'as commencé ce travail de délimitation des parcelles, ça c'est fini, t'as réussi à
non,
délimiter les parcelles?
Non, ça sera jamais fini parce que j'ai fait 5 vendanges quoi.
Ouais, ouais, c'est
donc
tout jeune,
aujourd'hui je commence à peu près à bien délimiter qu'est-ce qui mûrit avant, dans quel ordre les prendre, avoir des idées claires sur la hiérarchie terroir. Mais j'ai un boulot colossal. Il y a probablement là-dedans des îlots que j'ai pas identifiés. En fait, quand on fait un rang, par exemple sur la parcelle de Casbonne, là typiquement sur les galets, sur cette parcelle, le rang il fait 300 mètres avec une allée au milieu. Entre le bas de la parcelle et le haut de la parcelle, ça goûte pas pareil. C'est-à-dire que le bas de la parcelle, les raisins sont plus verts, ils sont pas mûrs, et en même étant en haut de la parcelle, sur la butte, sur la croupe, ça c'est là d'où est issu de ce vin, là il y a 1500 pieds, il y a 1500 pieds qui sont juste incroyables sur ce terroir. Donc en fait, il faudrait que je délimite dans une parcelle, indépendamment des rangs, des îlots que je viens de vendanger avant et que je dise on commence au tiers du rang. On fait le haut de la parcelle, on finit cette partie, et puis après on reviendra sur le bas après. Donc il faut arriver à cette finesse là qu'on n'a pas toujours des logistiques, on n'a pas toujours des récoltes qui nous permettent, parce que quand on a eu des incidents climatiques ces dernières années qui ont été très très durs pour le vigneron, et quand on a 5 hectares de rendement sur une parcelle, ben on peut pas faire de la dentelle quoi. Il y a un moment, il faut aller tout aller chercher parce qu'il faut remplir une barrique, faut remplir une cuve, faut remplir une amphore quoi. Et donc après voilà, on est dans des métiers d'arbitrage, de compromis, et on a une intention, on a un but, mais on n'arrive pas toujours à réaliser ce qu'on souhaite quoi.
Ouais, bah ça c'est, mais tu es entrepreneur depuis longtemps, donc tu sais que ça fait partie du boulot. En fait, moi il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans cette interview et en toi, c'est que je pense que tu vois, je pourrais te poser la question de t'as pas dû te faire des amis, ça doit être dur parfois, etc. Et je pense que c'est le cas, tu dois avoir des gens.
Je suis même pas sûr parce que je pense que j'arrive. Ouais, si, forcément, hein, il y a toujours des cons, hein, ça on n'y peut rien. Mais je pense que j'arrive. Je suis pas visionnaire. Hein, j'arrive à une époque où tout change. Le bio en rentre dans les mœurs chez les vignerons, les vignerons se rendent compte que les consommations changent, et je pense que j'ouvre des voies quoi, et que c'est pratique que le voisin ouvre la voie, parce que ça veut dire que c'est moi qui prends les risques quoi, c'est moi qui fais les conneries quoi, c'est moi qui prends des mauvaises décisions. Donc je suis en bon terme avec mon voisin, on discute, il vient me voir. Je vois quand je suis arrivé, personne faisait des couverts végétaux, des couverts en hiver. Aujourd'hui, je dois avoir la moitié des voisins qui font des couverts végétaux 5 ans après. Donc en fait, je pense que c'est une émulation. Le fait que je travaille sur ces cépages oubliés, je pense qu'il y a beaucoup de propriétés qui se disent « Tiens, c'est intéressant parce que ce travail n'a pas été fait aujourd'hui par nos institutions, c'est-à-dire le travail de recherche n'a pas été fait par les institutions qui représentent le vin de Bordeaux, ils n'ont pas fait ce travail sur la recherche de patrimoine, et au final, si moi je fais le boulot de faire les analyses sur 57 cépages et de les analyser et d'en tirer des enseignants en termes de vignerons, ben c'est un savoir qu'on va collecter et qui va bénéficier à la collectivité, parce que je fais pas ça non plus dans une approche fermée. J'ai pas envie de cacher cette information, parce que à la limite, si je trouve qu'il y a un cépage qui a vraiment sa place et qui a vraiment son marché, de toute façon, ensemble, si on est 500 vignerons à le planter, c'est à ce moment-là qu'il aura sa part de marché, parce que ensemble, on en créera sa notoriété. Tout seul, moi, j'arriverai pas à faire la promotion du Mansin, du Cassé, du Cabernet Goudable ou du Blanc au Bas, quoi.
Mais tu vois, c'est justement, en fait, pas mal de personnes, je pense, externes qui disent « bah tu vois, Bordeaux, c'est mort, etc. » Et en fait, c'est pas tout à fait vrai. Et c'est même pas vrai du tout à certains endroits. Et t'as plein de personnes qui sont en train d'essayer de faire des choses, de mener des expérimentations.
Bien sûr, ça bouge très vite, Bordeaux.
Et ça, c'est incroyable, en fait. Nous, on avait rencontré Loïc Pasquet, que tu dois connaître. Vous devez être bons potes, tous les deux.
Je connais bien Loïc.
On l'embrasse, il nous écoute parfois. Donc,
j'ai pas du tout la même stratégie.
Non, pas du tout.
C'est assez marrant, d'ailleurs. C'est la même approche que Loïc, parce que Moi, ce que fait Loïc, ça me ferait chier, parce que vendre du vin à des milliardaires que j'aurais pas envie de boire tellement il est cher, ça m'emmerde.
Tu l'as
quoi.
Déjà fait.
Ça, non, mais ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Je veux dire, pour moi, je fais un vin pour que mes potes puissent le boire, quoi. C'est ça qui me procure du plaisir, quoi. Donc moi, j'ai envie que mes vins soient accessibles, quoi. C'est-à-dire, je suis pas là pour faire un produit. Il m'en voudra pas faire un produit spéculatif pour faire plaisir à un milliardaire qui veut payer 3 000 euros ou 5 000 euros une bouteille de vin. Ce milliardaire, il m'emmerde. J'ai pas envie d'aller passer la soirée avec lui. Il est pas passionnant, ce mec-là, quoi. Ou il est pas forcément passionnant. Donc voilà, quoi. Chacun trouve son histoire. Par contre, ce qu'a fait Loïc, c'est brillantissime, quoi. C'est un génie du marketing. Il a ouvert incroyable. Des voies. Il a pigé plein de trucs. Il a un instinct du commerce et la compréhension des attentes du consommateur qui est fabuleux. Et il ouvre des voies. Ce qu'il fait autour des francs de pied, c'est extraordinaire.
C'est clair, et on l'embrasse. Il nous écoute parfois, et je suis certain, je reverrai cet épisode, je suis certain qu'il va l'écouter. On échange parfois ensemble. À chaque fois, il me dit, tu devrais l'interviewer, machin. Il est toujours très cool, et ça me ferait plaisir de le revoir d'ailleurs dans nos prochains passages à Bordeaux. Il faudra qu'on aille lui faire un petit signe. Mais c'est aussi, tu vois, tu parlais de parcellaire, etc. Lui, il a une grosse culture bourguignonne aussi. Donc je pense que c'est aussi ses inspirations bourguignonnes d'essayer de délimiter des parcelles, de comprendre les sols, en fait. Tu l'as dit, c'est quelque chose
oui,
qui a
non,
qui
mais forcément,
peu été fait.
Mais après, non. Il fait un vin bordelais puisqu'il fait un vin d'assemblage. Donc si
je
vais lui dire Loïc, tu nous bullshit. Tu nous bullshit. Tu singes les bordelais et tu le vends plus cher parce que les bourguignons vendent plus cher que les bordeaux. Mais au final, non, Loïc fait pas des vins de terroir parce qu'il assemble.
je crois qu'il prépare des parcellaires. Donc il faut faire attention.
Mais... Il est suffisamment intelligent pour se remettre en cause. Pour m'écouter.
Est-ce que pour toi, ta mission aujourd'hui, elle est là-bas, justement, elle est à Bordeaux. J'ai l'impression que tu te régales depuis 5 ans. C'est ce que tu as envie de faire pour toujours.
Ouais, c'est un sujet qui me passionne. Mais après, j'ai plusieurs idées à la minute, tu l'as compris. Donc, j'ai quand même une petite start-up qui est sympa, là, qu'on développe depuis un an. On part à Las Vegas pour promouvoir notre technologie au CES. Donc, j'ai quand même d'autres trucs dans les cartons qui me passionnent.
Qu'est-ce que c'est cette boîte?
Bon, c'est une technologie qui s'appelle Brand Deploy, qui est une technologie de gestion de contenu pour les grandes entreprises pour améliorer le workflow de diffusion du contenu.
Okay. Bon,
c'est un peu technique, on va
non,
pas
non,
en parler.
Gros sujet pour parler
en de parler
boîte.
En off.
Ouais, exactement. Gros sujet. Il est il y a le frère de Jean-Baptiste qui vient de passer. On aurait pu lui poser une question, tiens d'ailleurs, comment t'étais quand t'étais jeune.
Il vaut mieux pas lui poser la question parce que Damien est trop bavard. Damien est chef, donc
on est chez lui.
Il a participé à l'aventure 750 grammes avec moi. C'est un peu le chef, la figure emblématique du site 750 grammes. Et on a construit le site avec une complémentarité parce que moi j'incarne quelqu'un qui maîtrise le marketing et les outils techniques à l'internet. Et Damien, il incarnait le sens dans le projet 750 grammes. Parce que je pense qu'on fait pas de projet s'il n'y a pas un vrai sens et à la fois une vraie technicité. C'est-à-dire le projet 750 grammes, notre succès, c'est que Damien incarnait la compétence dans la cuisine, à l'incarnation de la cuisine par quelqu'un qui avait avec Christophe, qui est le chef, qui ont cette compétence, et moi qui en avais la technicité pour être capable de créer de la croissance. Et aujourd'hui, j'ai les mêmes problématiques dans le vignoble. C'est-à-dire, on conduit pas de vignoble si on a une grande technicité avec des équipes. J'ai une équipe formidable de gens qui sont des vignerons et qui ont une capacité à...
Que tu mentionnes d'ailleurs sur tes étiquettes, j'ai trouvé ça super cool.
Oui, je pense que c'est important. J'ai tous les prénoms des gens qui ont élaboré une cuvée, qui sont sur mes étiquettes parce que je dois beaucoup à Bruno, à Kevin, à David, à Aurélien, je leur dois beaucoup. C'est eux qui font le vin au final. C'est eux qui font le boulot toute l'année et qui vont enlever le chardon sous le pied au mois de juillet quand il commence à faire très chaud avant qu'il monte en graines. Quoi. C'est eux qui font ce boulot. Quoi. Je veux dire, autrement ça deviendrait c'est la folie quoi la vigne. Si on laisse partir en 2-3 ans tout part en vrille et ça devient une vigne sauvage qui produit plus de raisins quoi. Et donc il faut une technicité, mais en même temps il faut du sens quoi. Il faut du sens parce qu'il faut que l'histoire qu'on raconte, elle soit, que les qu'au final le public adhère, parce que faut que des gens achètent le vin, et je pense que on achète du vin pas seulement parce qu'il est bon, c'est le prérequis. On achète parce qu'on achète une histoire. Je veux dire, aujourd'hui, moi je pense que la façon dont je fais du vin, je suis un raconteur d'histoire. Je sais pas si je te mets les coulisses de ce que je prépare pour le mois de janvier, mais parce qu'en parlant de raconter d'histoire, je sais pas si je vais réussir.
Ça sortira après janvier, si tu veux.
Donc
tu peux y aller.
Je vais chercher en parallèle le site. On va rigoler. On va faire un. Et donc je pense que mon métier, c'est raconter une histoire. Donc tu le vois dans mes cuvées, tu le vois dans ce que je raconte. Derrière chaque étiquette, je raconte la cuvée exactement ce qu'elle est, parce que moi, il y a rien qui me fait chier d'avoir une bouteille que j'ai achetée il y a 10 ans et plus savoir ce que j'ai acheté, quoi. Ça, parce que 10 ans après, tu te rappelles plus. Hein, t'es passé chez le vigneron, tu l'as acheté 8 cuvées, tu te rappelles plus sa cuvée numéro 7, ce qu'il y avait dans la bouteille. Tu te rappelles même plus quel prix t'avais payé la bouteille, quoi. Si c'était le petit vin à 15 balles ou la grande cuvée à 45 €, et tu finis par ouvrir la bouteille à 45 € à tes potes en disant c'est pour l'apéro saucisson du vendredi soir, et tu dis putain c'était bon. Puis après tu regardes, ah ben oui, je vous ai ouvert quelque chose de bon. Et donc moi je raconte des histoires. C'est-à-dire, là, je vais vous mettre, dans la logique de raconter des histoires, je me suis dit que ça serait bien de le faire raconter par un artiste. Et j'ai trouvé un rappeur je sais pas si ça va bien entendre le son, qui va m'interpréter chaque cuvée. Et je vais mettre un QR code derrière chaque bouteille et on va voir un clip du rappeur qui raconte la bouteille. Bon voilà, ça s'entend mal, mais c'est pas très grave. Donc je pense qu'il faut explorer encore de nouvelles voies. Notre métier, il faut que le vigneron comprenne qu'aujourd'hui c'est plus un producteur d'un produit, quoi. On est là pour procurer un plaisir à son consommateur. On est là pour provoquer une émotion. Et du coup, c'est ça mon intention, mon métier, et c'est de partager cette passion auprès des gens qui me font le plaisir de goûter mes vins, de les publier sur les réseaux sociaux, de m'envoyer les commentaires. Ah, je réponds à tout le monde, parce qu'on peut me contacter sur Instagram, sur chaque étiquette. Je réponds à tout le monde. Et en plus, c'est très riche. C'est passionnant de discuter avec son consommateur final qui est passé par un importateur, par un caviste, et qui a été, c'est-à-dire on est dans une époque qui s'est jamais vue, quoi. On a une possibilité, nous en tant que vignerons, de reprendre le contact avec le consommateur, ce qui n'était pas dans l'histoire du vin, qui n'était pas possible.
Je veux te dire, même toutes les entreprises ont la possibilité de parler à ce point avec le consommateur.
Exactement.
Et chaque personne a le pouvoir de le faire. Et en fait, tu vois, mon coiffeur, il aurait la possibilité de parler avec toutes les personnes de mon arrondissement à Paris pour leur proposer une coupe. Chaque vigneron a la possibilité de parler avec toutes les personnes qui consomment du vin pour leur présenter.
Et c'est ça, moi, puisque je suis dans le digital depuis plus de 20 ans, je l'ai très très bien compris. Et du coup, je fais une des premières marques digitales de vin à Bordeaux. C'est-à-dire dans ma façon d'approcher le produit, dans ma façon d'approcher le goût, dans ma façon d'approcher la gamme, c'est que je pense que je m'inscris dans un air du temps, quoi. Un air du temps qui est de aujourd'hui, on a ce devoir. Alors c'est compliqué parce que être vigneron, c'est être dans les vignes, c'est être discuté avec son banquier, c'est facturer, c'est expédier, c'est faire les papiers de douane, c'est de récupérer le pognon quand le restaurateur t'a pas payé, c'est de faire son packaging, c'est expédier les bouteilles, et c'est faire du vin aussi, faut pas l'oublier. Donc le vigneron, j'ai jamais vu un métier aussi complet, quoi. C'est extraordinaire les compétences. En fait, les vignerons, ce sont des surhommes, quoi. Je veux dire, je me suis lancé là-dedans, je pensais que c'était facile comme d'autres métiers. Non, c'est 10 fois plus compliqué d'être vigneron que tous les métiers que j'ai fait jusqu'à maintenant.
Ouais, je pense que tu sais, on parle beaucoup de charge mentale, surtout dans l'entrepreneuriat, etc. Mais je pense que quand t'es vigneron, c'est la même chose, mais à l'exponentielle, parce que en fait, tu dois toujours regarder la météo, par exemple. Et c'est un truc tout bête, mais tu vois, moi aujourd'hui, j'ai de la charge mentale, mais la météo, ça me préoccupe pas du tout. C'est vraiment le dernier truc qui me préoccupe.
On dort mal, hein. Mais ça, c'est un problème, parce qu'en plus, on n'y peut rien, quoi.
Exactement.
C'est un peu con de regarder la météo, mais
ça dépend pas de toi, comme
dirait certains. Les nuits de gel, ça m'empêche de dormir, quoi. Toutes les heures, je me réveille et je rallume mon téléphone pour savoir quelle température il fait dans les vignes, quoi. Parce que maintenant qu'on a les technos et qu'on mesure tout, c'est abominable, quoi.
Ouais.
C'est une torture, en fait.
Il faut que tu mettes un système de notifs pour qu'il te réveille si.
Ah,
si...
c'est le pire. Je mets pas les notifs parce qu'au moins si je peux dormir deux heures, moi.
Ouais, mais
je mets surtout pas la notif. Ouh là là.
Si tu dis de te réveiller quand il fait.
Ouais, mais en fait on
en dessous zéro comme ça, tu dors là.
On n'y peut rien. En fait, tout le travail s'est fait en amont. Si on a des stratégies pour couvrir, mais on n'y peut rien. Ouais. En fait, on est rien par rapport à la nature, quoi. On n'est pas grand chose.
Bah ça, ouais. Ça c'est clair. Bon alors, parle-nous un peu de. T'en as parlé un tout petit peu, mais. Essayons d'approfondir un petit peu, c'était quoi cette aventure de soleil? Parce que donc tu nous as dit, tu retraces l'histoire des cépages à Bordeaux, mais tu nous as aussi dit que ce livre t'a pris 5 ans à écrire.
Non, il m'a pas pris 5 ans à écrire, il m'a pris 5 jours à écrire.
Bon, ouais, bon, ça va, mais, alors, c'est pas la même histoire là, Jean-Baptiste.
Mais c'est parce que j'avais accumulé des pièces pendant 5 ans. Et que je savais où chercher.
Ou pas.
Non,
c'était pour toi.
J'en avais besoin, en fait. Ouais. J'avais besoin de récupérer des documents, de les classer. En fait, je voulais refaire la matrice de tous ces cépages. Il fallait que je comprenne et que je rapproche les pièces d'entre elles et que je croise la littérature, que je trouve mes pierres de Rosette. C'est-à-dire, je trouve les documents dans la littérature qui me permettaient de rapprocher le prolongeau du gros Judith, quoi. À partir du moment où j'avais trouvé la pierre de Rosette d'un auteur en 1930 et qui me dit, le prolongeau et le gros du Judith, c'est la même chose. J'ai ma pièce qui me permet de remonter et de refaire mon fil, en fait. Donc c'est tout. Et donc au début, je ne savais pas, quoi. J'avais zéro de ces pages. Et donc tout ce document que j'ai accumulé, eh ben c'est un peu ce qui est dans le livre. Et puis avec une autre dimension qui était d'essayer de comprendre après, de s'immiscer un peu dans la psychologie du vigneron, en disant pourquoi le vigneron a changé de cépage. C'est pourquoi. Et là, j'ai eu des éléments de réponse, quoi. J'ai retrouvé dans les livres d'historiens, j'ai trouvé des éléments de réponse intéressants, quoi. Et en fait, c'est assez simple, quoi. C'est assez simple. Si on se remet dans la position du vigneron en 1850 à Bordeaux, en Bordeaux, en 1850, il y a 200 000 vignerons. Pour un vignoble qui est à peine plus grand en termes de nombre d'hectares que les vignobles actuels. Donc ça veut dire qu'un vigneron a moins d'un hectare en moyenne. Et à ce moment-là, arrive en 1851 à Bordeaux, dans les Graves, la crise de l'oïdium. Et la crise de l'oïdium, elle fait perdre les trois quarts des récoltes à Bordeaux jusqu'en 1855, à peu près. Et dans la psychologie de ce vigneron qui est complètement impuissant, quoi. Pas de science, pas de médias, rien pour informer. Aujourd'hui, on est capable d'inventer un vaccin en moins de 12 mois. À l'époque, on ne savait même pas ce qui est en train de se passer. Ils mettent 5, 6, 7 ans à trouver des solutions. On finit par comprendre que le soufre ferait une solution. Mais on met plusieurs années. Et à partir du moment où on met, ben, il faut pouvoir acheter du soufre pour pouvoir le pulvériser, du soufre en poudre. Et il faut inventer aussi une machine pour pouvoir pulvériser le soufre. Dans une industrie qui est balbutiante, quoi. Et du coup, ça coûte très cher, quoi. Et du coup, quand on est vigneron en 1851 et qu'on a un demi-hectare de vigne et que pendant 5 ans on fait rien, qu'est-ce qu'on fait? Mais on arrache sa vigne et soit on n'en replante pas, soit on replante un cépage où on s'est rendu compte qu'il a une sensibilité à l'oïdium qui est plus faible. Et du coup, c'est là où l'entre-deux-mers bascule sur la folle blanche. L'enrangeant blanc, tout bascule dans l'entre-deux-mers parce que la folle blanche est résistante à l'oïdium, très résistante. Et du coup, c'est comme ça que peu à peu, à force de crise, en fait, les vignerons ont dû s'adapter, ont dû changer leurs décisions parce qu'ils avaient une incapacité totale. Et bon, après, j'en ai à peu près pour une heure pour dérouler cette histoire. Donc
après, il faudra lire le livre.
Non, mais c'est passionnant. Mais on fera un autre podcast juste pour écrire cette histoire, parce que toutes ces crises, en fait, elles ont posé des problématiques au vigneron qu'il fallait qu'il gagne sa vie, quoi. Le vigneron choisit un cépage parce qu'il peut gagner sa vie avec. C'est son moteur, quoi. Et les cépages qui ont été choisis à Bordeaux aujourd'hui, en final, ce sont les cépages des riches. Ce sont les cépages de ceux qui avaient les moyens de lutter contre les maladies. Donc ce sont les cépages du Haut Médoc et les cépages de Sauternes qui ont présidé. Et quand sont arrivés les choix, on a choisi les cépages de la rive gauche parce que ces gens-là, ils avaient le moyen de produire des grands vins et de résister aux maladies, même si ces cépages, le Cabernet Sauvignon typiquement, il a une sensibilité à l'oïdium, mais les Médocains, ils voulaient pas renoncer au Cabernet Sauvignon. Et du coup, c'est devenu la norme parce qu'ils ont réussi à les faire survivre. Mais on pourrait lire, faut lire les écrits de Marc-André Sellos sur ce qui se passe sur le végétal et sur la résistance.
Incroyable.
Il écrit des choses passionnantes. En fait, la vigne n'aurait pas dû survivre. à ces crises. Et en fait, l'homme s'est acharné. Aujourd'hui, on a un vignoble parce qu'on s'est acharné, on a décidé de faire survivre la vigne.
Ouais, c'est clair, c'est une histoire qui est incroyable et qui est sans fin. Et je pense que même pour toi, ça a dû être difficile de finir ce livre et de te dire, bon allez, là ça c'est ok. Et...
Mais déjà, il n'est pas fini parce que sur 57 cépages, il va falloir que je fasse part de mon histoire, de mon expérience de vigneron. Ouais, pour chaque cépage, c'est ça la finalité.
Il y a une deuxième édition.
La finalité, c'est d'expliquer sur chaque cépage, est-ce que oui ou non, il a un intérêt, pourquoi pour un vigneron aujourd'hui? Et c'est ça que je cherche, c'est d'être capable dans ces cépages de dire oui, il a un intérêt si on veut faire ce type de vin. Oui, il a un intérêt si on cherche ça. Oui, il a un intérêt si on veut pas geler. Oui, il a un intérêt si on a des années de sécheresse. C'est ça, c'est toute cette histoire et c'est compliqué parce que c'est multifactoriel. Donc il n'y aura pas de cépage parfait. Parce que chaque cépage, ils cocheront jamais toutes les cases. Donc il faudra prioriser et le vigneron il devra faire des choix pour définir quel cépage représente un avenir pour lui.
C'est clair. Écoute, ça fait déjà 1h10 qu'on discute ensemble et je pense qu'on pourrait encore repartir pour 1h ou 1h15.
Il y a de la matière.
Ouais. Voire plusieurs jours même. On fera des épisodes spéciaux ensemble dans le futur, j'en ai aucun doute. Aujourd'hui, du coup, tu partages ta vie entre Paris et Bordeaux.
Ouais, c'est ça. Ouais. Je descends toutes les semaines pour aller mettre mes pieds dans les vignes, pour aller rencontrer des partenaires, des clients, des vignerons. Pour vivre quoi, pour vivre et rencontrer, parce que tout est une problématique de rencontre. Mon métier c'est de rencontrer des gens. Mon métier c'est de tisser des liens. C'est ça qui fera que mon histoire aura du sens.
Ouais, je suis d'accord. Et de toute façon, le vin est un produit qui est tellement dans le partage et dans les échanges que tu peux pas faire autrement. Ton livre s'appelle Bordeaux, une histoire de cépage. On le retrouve
Partout en librairie, il a été édité aux éditions BBD qui diffusent par les billets classiques de la diffusion en librairie.
J'ai très très hâte de le lire du coup et de le découvrir et j'ai très hâte aussi de venir te voir à Bordeaux du coup.
Avec grand plaisir.
Je pense que j'y passerai fin janvier donc je te mettrai un petit message.
Goûter toute la gamme parce que j'ai 10 cuvées aujourd'hui. Ouais, j'ai 5 blancs très différents, 5 rouges très différents parce que chaque cuvée c'est une intention en fait, c'est quelque chose que je veux qui ça sert à rien de faire des cuvées si les vins se ressemblent.
Ouais, juste pour
autant les assembler quoi, je veux dire donc il faut et en fait et là à partir de l'année prochaine, j'en ai une quinzaine de cuvées. Alors, j'ai eu d'autres idées entre-temps.
On passe l'année prochaine alors. Écoute, Laurent m'avait vendu un vrai pirate. Je suis pas déçu.
Oui, j'ai envie de bouger des lignes. Ouais.
Écoute, on te souhaite de réussir en tout cas. Si tu avais l'occasion de te croiser au moment où tu lances 75 centilitres et te glisser un petit mot à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dirais à toi-même?
Alors déjà c'est fonce quoi, je veux dire ça je crois que je l'avais compris et jette-toi à l'eau parce qu'il y a qu'en se jetant à l'eau qu'on se plante et qu'on rebondit et on trouve quelque chose. Et puis en critique, je pense que j'étais trop timide et trop tout seul, c'est-à-dire j'ai essayé de réinventer des choses tout seul. J'ai essayé de tracer ma voie et de forger mon expérience et apprendre par mes expériences. En fait c'est une connerie. Faut aller à la rencontre des autres. Toutes les conneries, les gens les ont déjà faites. Et on peut éviter 90% des conneries si on va rencontrer les mondes. Et ça, je savais pas le faire quand j'étais jeune parce que j'avais pas forcément confiance en moi. Je me sentais pas légitime pour aller rencontrer les autres. Donc j'ai réécrit des pages tout seul. Et aujourd'hui, j'ai mûri, j'ai plus défauts. Et je sais aller rencontrer les autres. Et du coup, j'apprends plus vite, quoi. J'apprends plus vite, je progresse plus vite, je me remets en cause plus vite. Je pense que je suis mieux dans ma peau, je suis plus épanoui et ça se ressent dans mes projets, quoi.
Écoute, c'est aussi l'objectif de ce podcast pour moi d'avoir une bonne excuse pour rencontrer des gens qui ont fait les conneries.
Le prétexte est un formidable outil.
Exactement.
Pour rencontrer, ouais.
Que j'espère du coup ne pas reproduire plus tard. Tout me paraît dit là-dessus. Donc, bravo. J'ai 3 questions qui sont assez traditionnelles dans ce podcast. T'en as écouté d'autres, tu me l'as dit
je
tout à l'heure. Donc
je devine à peu près les questions que tu vas poser.
Donc tu les connais.
Au moins j'en pense à 2, la troisième on verra.
La première c'est, est-ce que tu as un livre sur le vin à me recommander? À part le tien évidemment, sinon ce serait trop facile.
Ouais, non bien sûr. Alors, j'y ai réfléchi avant. parce que je. Alors déjà le premier c'est et ça va rejoindre la question que tu me poses après parce que ça sera la même. C'est le dernier livre de Marc-André Cellos. C'est-à-dire faut aller rencontrer Marc-André Cellos. Il est pas dans le sujet du vin mais il est juste prodigieux.
Ouais, c'est là, incroyable.
Et, Marc-André est quelque chose qui rend simple des choses compliquées. Et je pense que dans notre bagage de vigneron, on a besoin de comprendre chimiquement ce qui se joue. On a besoin de comprendre c'est quoi une plante. On a besoin de comprendre c'est quoi un sol pour objectiver nos pratiques. En fait, il faut, même si nos pratiques usuelles, au final, sont pas mauvaises, mais il faut comprendre pourquoi on le fait, même si on nous a déjà dit les anciens nous ont déjà dit de faire comme ça. Les anciens, ils avaient raison. Mais ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi. Donc le livre, le dernier, là, l'origine du monde de Marc-André, je suis en plein dedans. C'est une révélation pour moi de comprendre ce qui se joue scientifiquement sous mes pieds. Après, j'ai un deuxième livre. C'est un livre que j'ai découvert dans mes recherches. C'est un livre de 1879. Alors, je sais plus comment il s'appelle. C'est Manuel de viticulture. C'est un auteur qui s'appelle Armand Cazenave et qui était un vigneron à La Réole. Alors, moi, je suis originaire de La Réole, donc ça m'a particulièrement marqué. Et c'était un vigneron qui était d'une intelligence prodigieuse. Il a inventé un mode de fumure. Il a inventé un type de taille. Il a obtenu toutes les foires, les comices agricoles sont venus le voir. Il a eu un prix d'agriculture autour de ça, autour de son livre, autour de ce qu'il a fait. Et à l'époque, en 1860, il surprenait tout le monde en faisant 100 hectos de rendement sur ses cépages qui étaient chez lui, sur ses pratiques. C'est absolument prodigieux, alors qu'à l'époque, on produisait, les rendements étaient de 2 à 3 fois plus faibles qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce vigneron faisait 4 à 5 fois le rendement moyen de Bordeaux par son intelligence de ses pratiques agricoles. Et il a écrit un précis d'agriculture où il explique ce qu'il fait. Et pour moi, c'est incroyable de voir à quel point les vignerons avaient du savoir, avaient une intelligence. Quand on lit un livre comme ça, c'est d'une modernité incroyable. Et c'est un livre qui est un livre de chevet pour moi. Il explique comment, c'est lui qui écrit comment faire des semi-œils, comment greffer, comment il a observé toutes les pratiques de taille, il les a analysées, il les a. Donc c'est un état de l'art de l'agriculture en 1879 qui est absolument fabuleux. Et puis en termes de livres, oui, il y a quelqu'un qui est décédé dernièrement, qui est Dewey Markham, qui était un Américain à Bordeaux et qui a écrit l'histoire du classement de 1855. C'est-à-dire qu'il fallait que ça soit un Américain, comme moi, je suis un peu un étranger qui revient dans le vignoble et qui écrit cette histoire du Bordeaux par ses cépages. Là, il faut que ça soit un Américain qui écrit l'histoire du classé. Et c'est absolument fabuleux parce qu'on se rend compte que c'est un classement qui s'est fait un peu par hasard. Il y a la moitié des crus classés qui ont même pas envoyé leurs échantillons tellement ils en avaient rien à foutre de participer au classement de 1855. Aujourd'hui, ils s'arc-boutent à leur classement en disant, j'y tiens, mais on devrait rechecker ceux qui n'avaient pas envoyé les échantillons en 1855 en disant, je suis désolé, mais t'étais pas motivé en 1855. Aujourd'hui, tu me dis que tu veux garder ton classement. Tu vois, c'est rigolo, quoi. C'est rigolo de se remettre dans le contexte et se remettre dans le contexte aussi, si on rapproche de ce que j'ai écrit dans mon livre, que le contexte de l'oïdium. C'est-à-dire, on sort un classement de 1855 à une époque où Bordeaux ne produit plus de vin. C'est incroyable, quoi. C'est le pied de nez, il est incroyable. On fait un baron d'honneur pour vanter la magie de vin de Bordeaux, alors qu'on n'est plus capable de produire une bonne bouteille de vin à Bordeaux, quoi. Donc, on bâtit le classement sur une époque où il y a seuls les riches qui arrivent à faire du vin, vu le fléau qu'ils ont dans leur vigne. C'était un espèce de baroud d'honneur de communication, le classement de 1855, dans une époque où ils savaient même pas si la vigne allait survivre, quoi, en 1855. Donc c'est assez drôle en termes de livres. Donc voilà les trois livres que je peux conseiller.
Écoute, j'irai le lire avec grand plaisir. Je pense que ça va me faire marrer et j'aime bien ces histoires.
Les coulisses du classement, c'est fabuleux.
Replonger dans un contexte historique, réimaginer comme c'était à l'époque, c'est incroyable. La deuxième question, du coup, qui est aussi traditionnelle, c'est est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente?
Dégustation tout seul.
Tu dois en avoir pas mal.
Alors, ça, je l'avais pas préparé, ça.
Ah, voilà. Tu n'écoutes pas jusqu'au bout ces podcasts.
Qu'est-ce que j'ai dégusté que j'ai trouvé sympa? Oui, j'ai acheté la semaine dernière deux cépages, deux vins de cépages parce que je veux les regoûter, parce que je les replante, parce que j'ai découvert qu'ils existaient à Bordeaux. J'ai acheté un Mozac et un Ondenc de Robert Plajol, qui est pour moi un vigneron incroyable. Incroyable dans le travail qu'il a fait sur les cépages. C'est mon maître. En fait, c'est lui qui m'a donné l'idée. C'est une visite que j'ai fait en 20 ans avant d'arriver à Bordeaux chez Robert Plajol à Gaillac qui m'a donné envie. Je me suis dit, si un jour je fais du vin, je ferai comme Robert Plajol. Donc, en fait, mon idée de planter les cépages oubliés vient de Robert Plajol. Et là, j'ai dégusté son Ondenc, qui était un grand cépage à liquoreux. J'ai dégusté en sec et c'est une super bouteille. Ça a du gras, ça a de la matière, c'est riche, c'est superbe, quoi. Et j'ai découvert, pour la petite histoire, des pieds d'Ondenc dans des vignes de vieux sémillons à Bordeaux, sur la rive droite. Donc il y avait de l'Ondenc à Bordeaux. J'ai trouvé des pieds datant de 1900 d'Ondenc. C'est pour ça, comme ça, que j'ai été chercher ces bouteilles. Et il y avait de l'Ondenc à Bordeaux, qui est un grand cépage blanc de Gaillac. Autrefois.
On s'attend au goûter chez toi dans quelques années, le temps que tu les trouves, que tu les plantes, etc.
Les temps de la vigne sont longs.
C'est clair. Et enfin, dernière question, à laquelle tu as déjà à moitié répondu, mais je vais quand même la poser parce que je me dois de le faire.
J'en ai déjà cité deux. Tu dis, il faut aller rencontrer Robert Plajol.
Ah, voilà. Robert Plajol. Ça me ferait plaisir.
C'est un historien.
J'ai redécouvert un peu les vins de Gaillac l'année dernière. Et en fait, je le connaissais pas du tout. Et j'ai trouvé ça, mais incroyable sur des vins.
C'est pas incroyable, mais une vraie originalité. Gaillac doit tout à Robert Plajol, qui dans les années 80 a dit, bon, stop. J'arrête cette appellation de Gaillac qui permet tout, hein. L'appellation de Gaillac, c'est une espèce d'appellation tiroir qui permet à la fois les cépages du Languedoc, mais en même temps les cépages de Bordeaux, genre dans un pot pourri, quoi. Et tout d'un coup, Robert Plajol, dans les années 80, dit, non, on a un patrimoine immense et je vais le revisiter, je vais aller revisiter ces cépages d'autrefois et il a fait un boulot extraordinaire pour recréer. Derrière, il y a une nouvelle génération de vignerons qui est arrivée derrière et qui a fait un boulot formidable dans la lignée de Robert Plajol. Donc, faut aller rencontrer Robert Plajol qui fait aussi un formidable travail aussi sur les vignes sauvages, quoi, pour retourner au travail qu'il y avait dans les vignes. Marc-André Sellos.
Marc-André Sellos, évidemment.
Sort de l'univers du vin, mais je pense qu'il faut revenir aux bases, quoi. On peut faire du grand vin que si on a des sols et du coup, il faut aller réinterroger ces scientifiques tu as interrogé Olivier Liobrega, qui est aussi j'aurais pu le conseiller si tu l'avais pas, je crois que je l'aurais mis si tu l'avais pas déjà conseillé.
On l'embrasse, évidemment.
Mis Loïc aussi,
il nous écoute si de temps en temps, Olivier, donc, ouais. On l'embrasse avec tous nos amis de chez Plémont aussi.
J'aurais pu mettre Loïc, si tu l'avais pas déjà interviewé, parce que je pense que c'est quand même quelqu'un d'intéressant dans le travail qu'il a fait, incroyable.
Malgré qu'il ne fasse pas de parcellaire, mais.
Oui, bon, on s'engueule, ça fait partie du jeu, quoi. Et qui c'est qu'on pourrait rencontrer d'autre? Un vigneron, peut-être à Bordeaux, aller rencontrer, soit Henri Duporge autour du travail qu'il fait autour de la Carménère à Bordeaux, ou un Frédéric Mallier. Frédéric Mallier qui a, en achetant ses vignes quand il s'est installé il y a une quinzaine d'années, a trouvé une parcelle, une très vieille parcelle préphylloxérique. Donc il a 30-40 arts de vignes dans lequel il y a 11 cépages qui ont été, et il a des pieds qui datent de 1860. Cette vigne, elle est incroyable. C'est un cordon de Roya avec des pieds qui font 8 à 12 mètres de long. Donc ça fait, le pied fait 12 mètres avec des grappes tout le long, là. C'est juste incroyable. C'est une vigne, et cette parcelle, c'est la mémoire de Bordeaux, quoi. Et Frédéric a un projet de replanter en franc de pied des choses. Et puis on pourrait, bien sûr, dans mes acolytes aussi, aller voir David Barrault aussi, qui a replanté du Mansin et du Casté à Bordeaux et qui, par coup de cœur, a replanté du Pinot d'Aunis, ce magnifique cépage de Loire à Bordeaux, et qui sera une cuvée super importante, super intéressante, très épicée, incroyable. J'adore. J'ai aussi ce que fait David. Donc voilà, des gens intéressants à raconter, rencontrer.
Tu nous as rempli notre itinéraire pour les 12 prochains mois à Bordeaux. Donc
il y a quoi faire. Après, il faut aller aussi dans d'autres régions. Il y a des choses passionnantes partout.
C'est promis. C'est promis, on va le faire. On a, j'aimerais bien justement.
Il y a aussi les gens des cépages, des rencontres des cépages modestes
ouais.
aussi.
Ouais, j'aimerais beaucoup y aller. Serait super sympa.
Font, les gens Rosen, ouais. les André Derieux, des gens comme ça qui ont fait un boulot formidable pour la promotion des cépages modestes.
Ils ont fait un bouquin d'ailleurs qui est super cool.
Ouais, bien sûr,
dictionnaire des cépages modestes.
D'ailleurs, André m'a demandé d'intervenir l'année prochaine pour retracer ce côté. Il m'a dit, en 10 ans de rencontre, on n'a pas travaillé la piste des cépages d'Osnes dans cette dimension historique de l'évolution de mixer la géographie et ces événements sanitaires ou politiques et l'influence sur les cépages. Et il me dit, ce que tu as tracé là depuis 2 siècles, c'est super intéressant parce que ça peut s'appliquer à tous les vignobles. Il serait intéressant que tu viennes raconter ça à Saint-Côme-d'Olt le 5 et 6 novembre 2022. Donc je serai à Saint-Côme-d'Olt dans l'Aveyron l'année prochaine.
C'est noté. Si vous voulez croiser Jean-Baptiste, vous savez où le trouver l'année prochaine.
Ah, il faut venir au cépage modeste. C'est génial.
Et j'espère que je serai dans le public à ce moment-là. Jean-Baptiste, merci beaucoup pour tout ça.
C'est un grand plaisir de partager cette passion commune pour le vin.
J'en profite pour embrasser aussi nos amis du Bon Grain de l'Ivresse, chez lesquels tu es déjà passé, un autre podcast sur le vin.
Ouais, ils font du super boulot.
Qui est super cool.
Et j'adore le format podcast, en fait, parce que c'est un format où on a le temps de développer. Et au final, il n'y a pas beaucoup de formats qui permettent ça, parce que la presse papier ou même la télé sont des formats où, au final, on est obligé de simplifier. On est obligé de trouver des punchlines, alors que le format du podcast est un format long où on peut aborder de la nuance, et c'est vrai que c'est passionnant.
C'est clair. Et j'ai aucun doute qu'on fera un épisode 2 ensemble dans les années qui viennent.
Quand il y aura quelques cuvées à déguster, c'est pas oublié par exemple.
C'est promis. Pour celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez aimé ce podcast, j'espère que c'est le cas, allez découvrir les vins de Jean-Baptiste. Déjà, il est dans plein de cavises, dans plein de restaurants. Venez là où on est chez Chef Damien, qui est ton frère.
Porte de Versailles, à 750 grammes la table.
Porte de Versailles, c'est super accessible. Et ça a l'air très sympa, l'ambiance est très cool. Moi j'ai l'impression d'être en été, c'est l'ambiance guinguette qui est super sympa. Donc venez voir. Jean-Baptiste, encore merci pour tout ce temps et pour ce que tu nous as accordé. Et je te dis à très bientôt.
Ça marche.